Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour un nouveau hors-série documentaire consacré au peintre Peter Bruegel. Cette année, la Belgique fête l'année Bruegel à l'occasion des 450 ans de la mort du peintre. Cet événement a été marqué par une grande exposition au Kunsthistorische Museum de Vienne en Autriche cet hiver, car ce musée est le plus riche en œuvres du maître flamand. La Belgique poursuit cet hommage et cette mise en lumière d'un de ses plus grands peintres, pourtant longtemps boudé par la critique. Depuis quelques années, les recherches se sont multipliées pour éclairer la vie et l'esprit de ce peintre mystérieux dont on ne connaît que peu de choses. Peter Bruegel est né vers 1525 dans un petit village du duché de Brabant, au nord de l'actuelle frontière entre la Hollande et la Belgique. À cette époque, un moine germanique du nom de Martin Luther défie la toute-puissance de l'Église catholique alors que le navigateur portugais Magellan revient de la première circumnavigation mondiale. À Anvers, puis à Bruxelles, ville dans laquelle il meurt en 1569, Peter Bruegel est le témoin de la montée du protestantisme, combattu alors par Charles Quint et surtout par son fils Philippe II, ce qui aboutira à une guerre éprouvante, dite de 80 ans, qui oppose donc les Habsbourg aux provinces des anciens Pays-Bas. Si Bruegel ne nous montre jamais d'appartenance religieuse ou politique dans ses peintures, il reste un peintre des paysans qui décrit avec une multitude de détails les us et coutumes, les kermesses et la vie du peuple, les vices et les vertus, les péchés et la débauche, le bien et le mal. Le thème religieux est traité comme une scène de genre et la scène de genre comme des peintures moralisatrices. Aujourd'hui, nous sommes fascinés encore par l'imagination débordante de ce peintre et par son esprit caustique teinté d'humour, un esprit très bruegelien puisque le terme est passé dans la langue, qui perdure toujours à Bruxelles et en Flandre. Nous avons suivi quelques passionnés sur les traces de Peter Bruegel, toujours bien et bon vivant. Vous verrez qu'il a aujourd'hui encore des héritiers. Et c'est l'occasion de découvrir plusieurs événements qui rythment cette année Bruegel en partenariat avec Art District Radio et les dossiers de l'art des éditions Faton.
Les tableaux de Bruegel montraient l'homme tel qu'il était. Il ne voulait pas du tout l'embellir et ce ne sont pas des portraits.
En compagnie d'une guide, responsable des visites guidées au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles.
Pour lui, le peuple avait beaucoup d'importance. Donc il s'habillait comme un paysan pour pouvoir être vraiment au cœur de l'action. Que ce soit des naissances, de mariages ou d'enterrements, il était là pour vraiment capter l'ambiance de l'époque. C'est typiquement bruegelien, ou des couples qui s'enlacent dans les bois. Mais il montrait la vie telle qu'elle était.
Le Musée des Beaux-Arts de Bruxelles abrite le deuxième plus grand ensemble au monde de peintures de Bruegel. En particulier la chute des anges rebelles, paysages d'hiver avec patineurs et trappes aux oiseaux et le dénombrement de Bethléem. Trois huiles sur bois réalisées à la fin de la vie du peintre entre 1562 et 1566, alors qu'il était établi à Bruxelles. Pour aller plus loin dans l'étude du peintre et surtout permettre aux visiteurs de regarder les détails, le musée a initié en 2016 une collaboration avec la plateforme digitale Google Arts and Culture qui permet de retrouver l'histoire de plusieurs grands chefs-d'œuvre du peintre conservés dans plusieurs musées dans le monde. C'est en immersion, devant d'immenses écrans vidéo, à l'intérieur d'une salle dédiée appelée la Bruegel Box, que nous pouvons aussi admirer le talent du peintre et les innombrables détails de ses œuvres. On plonge alors dans la chute des anges rebelles, ou les Proverbes, une peinture datée de 1559 qui représente une étonnante image truffée de proverbes contemporains de l'artiste.
L'un tond le mouton, l'autre la truie.
Oui, je ne connais pas tous les proverbes, mais là, c'est la trahison. La femme trompe son mari. Ça, c'est... Et alors, jeter des perles au porc, normalement, c'est des perles. Hein. Le dicton veut dire, quand vous donnez une information à quelqu'un, vous offrez quelqu'un qui ne l'apprécie pas et qui n'est pas à la hauteur d'apprécier. Les grands poissons mangent les petits. Ça veut dire que quand vous êtes fort et puissant, donc forcément, vous aurez le dessus. Ça, ce sont les fameux vlaikes. C'est un fait avec de la semoule de blé. Rismel, on dit en flamand. Semoule de blé, c'est typique de la Flandre. Et vous verrez dans le tableau de Carnaval et le Carême que les gaufres existaient déjà. Les waffles, on les faisait déjà.
C'est un univers assez cocasse, quoi, très riche, foisonnant, picturalement très intéressant, même assez élaboré, et puis avec des références des situations, des comportements, des us et coutumes dont on ne décrypte pas forcément tout si on n'a pas les clés de l'œuvre. Mais même si on ne les a pas, c'est un ensemble de scènes qui se laissent regarder pour leur côté. Pittoresques, singulières, variées, différentes, originales, drôles, décalées, ludiques.
Il y a aussi beaucoup de détails sexuels. La fleur qui s'ouvre et qui montre ses graines, c'est la matrice aussi. Vous avez les jeux prohibés. Et on mange du porc, des saucisses autour, le carnaval, vous avez des masses de carnaval, probablement un lépreux. On tue le cochon, des graines ont été données aux poules pour qu'elles puissent se nourrir. Alors, des enfants qui jouent à la toupie, là à droite, cet homme-là qui vole des légumes, enfin ce qui reste dans ce petit jardin.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière.
Il y a un contemporain, ou quasiment contemporain, de Bruegel, qui le nomme le second Bosch. Donc c'est déjà à l'époque, si vous voulez, on fait cette filiation entre les deux artistes, qui ne se sont bien sûr jamais connus, puisque l'un décède en 1516, Bosch, quand l'autre n'a visiblement n'est pas encore né. Il y a cette filiation spirituelle entre les deux qui est évidente.
Emmanuel de Coninck, guide conférencier en Flandre.
Il faut savoir que si les fêtes villageoises connaissaient aussi autant de succès, et notamment aussi auprès des citadins, c'est parce qu'en s'éloignant des villes, on pouvait festoyer à moindre prix. La mesure où vous n'aviez plus de taxes qui étaient perçues sur la consommation de bière, ce qui explique aussi qu'on va commencer à légiférer, puisque certains villages avaient tendance à organiser kermesse sur kermesse, et donc on va établir de nouvelles règles stipulant qu'on ne peut organiser qu'une fois par an une kermesse en l'honneur de son saint patron protecteur. Ce que l'on sait de Bruegel, c'est qu'il n'avait pas forcément un regard, je dirais, critique sur la façon dont ses paysans s'amusaient, contrairement peut-être à d'autres artistes, mais avait probablement beaucoup plus d'empathie. En tout cas, on sait qu'il aimait à discrètement se faufiler dans les festivités villageoises, tout simplement pour observer, et le fruit de ses observations se retrouvait ensuite dans ses propres compositions.
On ne sait pas si Bruegel était protestant, je ne pense pas. Il avait des sympathies, peut-être. Et d'ailleurs, On dit qu'à sa mort, il aurait détruit beaucoup de documents ou de tableaux qui auraient pu compromettre son épouse. Il n'y a pas de biographie récente après la mort de Bruegel. Il y a celle de Karel van Mander, qu'il a écrite 40 années après la mort de Bruegel.
Si nous connaissons très peu de choses sur la biographie de Peter Bruegel, nous pouvons tout de même citer un texte rédigé par Karel van Mander, doyen des peintres de la guilde de Haarlem. Ce jovial hollandais a voulu faire pour quelques 3 douzaines de peintres hollandais et flamands ce que Giorgio Vasari, en Italie, avait fait un siècle plus tôt pour ses compatriotes, les grands maîtres de la Renaissance italienne. Il avait rédigé avec amour et admiration la vie des peintres. Van Mander y décrit Peter Bruegel avec ces mots. D'une manière admirable, la nature a découvert et s'est emparée de cet homme qui était destiné, à son tour, à dominer si magnifiquement la nature. Au fond d'un obscur village du Brabant, son choix se porta sur un paysan, l'astucieux et talentueux Peter Bruegel, pour en faire le représentant des paysans et un peintre pour la plus grande gloire des Pays-Bas. Et Karel van Mander de poursuivre. Il naquit non loin de Breda, dans le village de Bruegel, un nom qu'il adoptera et transmettra à ses descendants. Il apprit son métier sous la coupe de Peter Kok van Alst, dont il épousa la fille par la suite. Du temps où il habitait dans la maison de van Alst, elle n'était encore qu'une petite fille qu'il emportait souvent dans ses bras. Lorsqu'il quitta van Alst, il s'installa chez Jérôme Kok pour y travailler, puis il fit un voyage en France et en Italie. Il travailla beaucoup à la manière de Jérôme Bosch et produisit de nombreuses scènes de fantômes et de drôleries, ce qui lui valut de la part de nombre de personnes le surnom de Peter le Drôle. Rares sont ces œuvres que l'on peut contempler avec solennité et impassibilité.
Il y a des importations d'objets, des importations d'animaux, de plantes qui nous viennent donc du Nouveau Monde. Anvers, à partir du 15e siècle, sera le port le plus important. Ces animaux sont hybrides, que nous verrons dans certains tableaux, qu'ils soient anthropomorphes, qu'ils soient zoomorphes ou phytomorphes, donc animal, plante ou humain. Les cabinets des curiosités, très important de savoir ce que c'est qu'un cabinet des curiosités. Le premier ici dans les Pays-Bas, ce fut Marguerite d'Autriche, donc à Malines, puisqu'à l'époque le Grand Conseil et la Cour se tenaient à Malines. C'était l'époque de Charles Quint et ensuite de Philippe II, son fils. Son royaume sur lequel ne se couchera pas le soleil. Donc vous avez la Nueva España, la Nueva Castilla, qui sont le Pérou et le Mexique, qui feront partie de toutes les possessions de Charles Quint. Sur les armes de Charles Quint, vous avez tous les pays donc qui font partie de son royaume.
Durant ses voyages, il fit tant de croquis de la nature qu'on dit de lui et de sa traversée des Alpes qu'il avait avalé les monts et les rocs pour les restituer ensuite dans ses toiles et sur ses bois. Il se fixa à Anvers et fut admis dans la guilde des peintres en l'an de grâce 1551. Il fit de nombreux travaux pour un marchand du nom de Frankert, un homme noble et intègre qui prenait plaisir à le rencontrer tous les jours. En compagnie de ce Frankert, Bruegel se rendit souvent dans la campagne pour visiter les foires ou assister à un mariage villageois. Déguisé en paysan, il apportait des cadeaux comme les autres convives et se faisait passer pour des parents ou des amis du marié ou de la mariée. Bruegel prenait plaisir à observer le curieux comportement des paysans et étudier la façon dont ils buvaient, mangeaient, dansaient, s'ébattaient et même faisaient l'amour. Certains de ses dessins étaient trop caustiques et acérés. Il les fit brûler par sa femme lorsqu'il fut sur son lit de mort, ceci de crainte qu'elle n'eût à en répondre et fût sujette à des ennuis. Écrit Karel van Mander dans sa vie des peintres.
Dans les tableaux de Bruegel, vous avez plusieurs lacs glacés sur lesquels des patineurs. Ce trou dans la glace attend les patineurs imprudents. Le corbeau, c'est le symbole de la mort. Et là, c'est une planche soutenue par un petit bout de bois sous laquelle vous avez des graines quand il y aura beaucoup d'oiseaux sous la planche, logiquement, ils vont déplacer le morceau de bois et la trappe aux oiseaux, ils vont être pris. Donc la mort rôde, la mort est toujours présente.
Nous aurions bien du mal à énumérer toutes les choses qu'il a peintes, ses insolites et fantastiques œuvres, ses images représentant des paysans ou l'enfer, à grand renfort de personnages comiques dépeignant le véritable caractère des paysans. On trouvera sous forme de gravure un grand nombre de ses œuvres comiques, étranges et pleines de sous-entendus. Mais il exécuta aussi de nombreux dessins de ce genre, aussi soignés que beaux, et auxquels il a ajouté des légendes. Karel van Mander.
Bruegel n'a pas inventé le paysage, mais puisque le paysage naît en tant que genre indépendant au tout début du XVIe siècle, mais on peut dire qu'il va en faire, je dirais, un de ses sujets principaux, et on peut dire qu'avec lui, le paysage trouve son plein épanouissement au XVIe siècle.
Emmanuel de Coninck, guide conférencier en Flandre.
Donc toujours des paysages vus comme vus à vol d'oiseau, donc avec des perspectives qui vous permettent de vous engouffrer dans le fond des vallées, avec des petits personnages qui vous permettent de vous donner une meilleure échelle. Bruegel Inventor, et alors vous avez H.Koch, Excou, pour Excoudit. Autrement dit, on vous dit que ceci a été inventé par Bruegel et a été exécuté par Hieronymus Koch, qui est lui-même peintre et graveur, mais qui va donc, après son voyage en Italie, comprendre qu'il y a moyen, en fait, de commercer avec ces images d'une autre manière, d'une manière plus professionnelle. Koch va fonder une maison d'édition qui va s'appeler In de Vier Winden, traduisée aux quatre vents, établie donc à Anvers, et qui va devenir l'une des plus importantes maisons d'édition d'estampes du nord de l'Europe, voire même de toute l'Europe entière. Et donc ce que fait Jérôme Koch, et ça c'est assez nouveau, c'est qu'il engage des artistes. Il va notamment donc engager Bruegel, et il le fait voyager, il l'envoie en Italie. Donc c'est le voyage d'Italie que fait Bruegel, qui ne va cependant pas ramener les mêmes images que ses confrères, qui s'attardaient toujours aux antiquités et aux ruines de Rome. Mais lui, c'est surtout en fait ces énormes et vastes paysages des Alpes qui vont profondément le marquer. Et donc c'est sa grande suite des 12 paysages qu'il réalise une fois revenu à Anvers, dont vous avez ici deux exemples. Donc ça veut dire qu'en fait leur collaboration aura duré au moins une quinzaine d'années, une longue collaboration, même établi à Bruxelles, il continue à collaborer avec l'éditeur anversois qui lui passe commande des quatre saisons. Malheureusement, Bruegel n'a pas le temps de terminer la série, il décède en 1569, et donc il n'y a que les deux premières, printemps et été, qu'il aura réalisé. Et ce que fait l'éditeur, c'est qu'il engage Hans Boll. Il lui demande en fait de poursuivre et terminer la série l'automne et l'hiver. Mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr de pouvoir comparer ici l'approche, qui est finalement une approche très très différente. Et on se rend compte que ce qui est incroyable chez Bruegel, c'est qu'il réussit à conduire votre regard du début de l'image jusqu'au fond de cette image par l'utilisation de ces perspectives, par cette sorte de voie ouverte centrale ici qu'on a dans l'été. Il réussit à vous donner en fait l'impression et la suggestion d'un soleil d'été qui tape. Et alors vous avez les petits détails bien sûr de cet homme qui boit à même la cruche, et aussi les jeux d'illusion de cette faux et de ce pied qui semble sortir du cadre de l'image. Thank you.
café braille, it's not the jukebox, door the doodles, I can hear, zingen zorpers, ingekrokte Amerikaans. De gravuren on de muren doen een koel in haar was, hetgeen de meester ons vertelde in het Vlaams. En in ander vreemde talen, Spaans, Arabisch en Sanskriet, zijn penselen boerde galten in de daad. Meester Bruegel, kom maar binnen, in de lichten van de kroeg, laat de wereld nou maar slapen. Zet de haaien bij de ploeg. Boven de flipper.
On est dans un quartier tout à fait particulier de Bruxelles, donc on appelle les Marolles, je vous expliquerai tout de suite pourquoi, qui au Moyen-Âge, avant le XIVe siècle, était hors les murs. Et donc vraiment, on a l'enceinte qui monte, qui protège la cathédrale ici, qui va jusqu'au palais ducal qui était ici, le palais de Charles Quint, et puis l'enceinte tournait autour, descendait, mais donc ce quartier a toujours été vraiment un quartier d'abord très densément peuplé. On va le voir, il y a énormément de toutes petites rues, de petites impasses où énormément de gens vivaient. Hein, quand on voit le plan de Deventer, en fait, donc c'est un des premiers plans de Bruxelles qui date de l'époque de Bruegel. On a cette rue ici, très longue, qui est la rue qui commence là au-dessus. C'est la rue Haute.
Pour une promenade dans Bruxelles, sur les pas de Bruegel, nous suivons les pas de Michel Duponcel, guide conférencier en Flandre.
La rue où se trouve la maison Bruegel, qui elle est une rue, en fait c'est très commun à Bruxelles, c'est que les patrons vivent au milieu de leurs ouvriers. Il n'y a pas des quartiers comme aujourd'hui, les quartiers pauvres je dirais, et les quartiers riches. Oui, il y a le quartier noble près de la cour, hein, qui est le Mont des Arts, qu'on appelle le Codenberg à l'époque. À noter que Bruegel, d'ailleurs, quand il est à Anvers, ne s'affilie pas à la guilde de Saint-Luc. Il s'affilie à la guilde des romanistes, c'est-à-dire des gens qui ont été étudiés la peinture en Italie. Et donc ça donne aussi tout un esprit où il ne se revendique pas de l'héritage de Van Eyck, mais plutôt de l'héritage de Raphaël, etc. Et donc ici, c'est une œuvre d'un sculpteur moderne, enfin contemporain, Tom Fransen, qui réalise à travers toute la ville de Bruxelles dans la région bruxelloise, des œuvres qui rappellent justement le passé de la ville, l'histoire de la ville, son folklore. C'est chaque fois des clins d'œil en fait, c'est pas une histoire sérieuse, c'est une histoire à la bruxelloise, un peu ce qu'on appelle la zouance, donc cette espèce d'humour d'autodérision typique des Bruxellois. Et donc il va choisir, vous voyez, un cadre, donc nous sommes en fait le sujet que le peintre est en train de réaliser, puisque à la fois il nous regarde et nous le regardons. Et tout le mur bruxellois, c'est d'avoir choisi deux éléments de peinture de Bruegel qui sont de très loin les moins connus, ou en tout cas pas ceux qui viennent à l'esprit directement. Donc il y a le fameux singe de la toile des deux singes, et puis alors il y a la fameuse pie du gibet à la pie, où c'est un peu comme les jambes d'Icare, on a le gibet, les gens et tout le bazar, et on se demande pourquoi ça s'appelle le gibet à la pie, parce qu'il y a une toute petite pie dans un coin. C'est ce qui rattache Bruegel vraiment à cet esprit bruxellois, en fait. C'est que de la même façon qu'il peignait, en fait, aujourd'hui encore, le bruxellois voit les choses comme ça. Avec cette autodérision, cette remise en perspective de la valeur des choses, de l'importance des choses, de l'importance de l'accident dans le quotidien, et ainsi de suite. Et tout est dans cette composition de Tom Fransen, finalement. C'est lui qui fait le chien qui fait pipi contre un potelet dans le centre-ville. Ce chien, c'est le fameux Zinneke. Donc Zinneke, c'est un mot qui, pour un francophone, a l'air d'être un mot flamand, et pour un flamand, c'est un mot qui a l'air d'être francophone. Parce que c'est un mot qui n'existe qu'à Bruxelles. Ce sont les anciens bruxellois qui, quand ils avaient leur chien qui avait des bâtards, disaient « il est bon pour la rivière ». Or, la rivière, c'est la Seine, et donc en bruxellois, on disait « voor de Zinneke ». Donc pour la Seine, en fait. Bon à tuer, quoi. Et donc Zinneke veut dire bâtard en patois bruxellois, mais ça n'a de sens qu'à Bruxelles, puisque c'est lié au nom de la rivière. Et les Bruxellois se sont appropriés ce mot parce qu'ils se considèrent comme les Zinneke de l'Europe, en fait. Que l'identité bruxelloise est cette multiculturalité qui vit avec 140 langues au mètre carré. Voilà. Et Bruegel est déjà beaucoup là-dedans. C'est pour ça que c'est un peu absurde d'essayer de le rattacher manu militari à une ville, même à un pays. Voilà, il est aussi important en Italie où il a travaillé qu'à Anvers, qu'à Bruxelles, que dans la principauté de Liège où il est né. Il a été plusieurs années en Italie, il revient naturellement à Anvers, mais un peu désœuvré. Il va travailler quelques années chez Cox, l'imprimeur. Et ça, c'est très important pour comprendre la peinture de Bruegel et la différencier des primitifs flamands qui le précèdent juste. C'est justement ce travail lié à l'imprimerie. Parce que l'imprimerie, qui est inventée donc 50 ans avant sa naissance, va changer fondamentalement les règles de l'art, en fait. Parce que jusque-là, l'art est uniquement religieux ou princier. Bruegel, ayant travaillé sur l'imprimerie, travaille aussi sur une forme de démocratisation de l'art. Il travaille à bon marché, puisque avec un dessin, il peut le vendre 25 fois, 200 fois, 500 fois. Et donc, il travaille à bon marché. Et donc, du coup, il peut se permettre de dessiner ce qu'il a envie, parce qu'à bon marché, il trouvera bien des preneurs. Et ce n'est qu'une fois qu'une gravure devient populaire qu'il en fait un tableau. Et pour comprendre Bruegel, c'est indispensable. Allez, il y a très peu de scènes religieuses en fait dans l'œuvre de Bruegel. Hein. Et donc il est vraiment le peintre du peuple. Et donc chez lui c'est très important puisqu'il n'y a quasiment rien que ça. On arrive là au bas du sablon avec les escaliers. Les escaliers montrent en fait pourquoi la rue là s'appelle la rue Haute. Donc la rue habite Bruegel, c'est la rue Haute. Pourquoi ? Parce que la rivière, la Seine, coule tout en bas. Et donc, depuis la Seine, la ville se construit sur la colline. On arrive à un lieu de triste mémoire, puisqu'on arrive au musée juif de Bruxelles. Donc, cette rue n'a quasiment pas changé depuis que Bruegel nous a quittés. Pierre Cook vit au temps de Charles Quint, Bruegel plutôt au temps de son fils Philippe II. Mais c'est quand même la période où Bruxelles est la ville la plus puissante de son histoire. Hein, il ne faut pas oublier que sous Charles Quint, Bruxelles est la capitale du plus grand empire que l'humanité a connu, puisque c'est la capitale de Charles Quint. Or, Charles Quint règne sur la moitié de l'Europe, sur toute l'Amérique latine, sur les Philippines, une partie de l'Inde et une partie de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'or des Amériques sous Charles Quint arrivait ici à Anvers, n'arrivait pas en Espagne. Il ne faut pas oublier que la Belgique a le plus ancien nom de pays d'Europe, puisque cet endroit s'appelle la Belgique depuis avant Jésus-Christ, ce qui est le cas d'aucun autre pays d'Europe. Donc on joue très fort là-dessus, pour dire que la Belgique a toujours existé, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas être indépendante. Et donc on va se créer comme ça toute une mythologie, c'est comme ça qu'on met Godefroy de Bouillon, que vous avez vu tout à l'heure, sur la place Royale, voilà, pour rappeler que c'est un Belge qui a conquis Jérusalem. À Liège, il y a une immense statue de Charlemagne, parce que Charlemagne est né à Liège. Clovis est né à Tournai. Et donc, voilà, donc on réécrit un peu l'histoire comme ça, avec des héros qui n'ont jamais su qu'ils étaient belges, mais que nous, on sait qu'ils sont belges. Et donc, on va se créer une musique nationale, une littérature nationale et une architecture nationale. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, Bruegel à Pignon-sur-Rue. Donc, il fait partie, dans le quartier, des notables. Sa maison a 3 étages, donc c'est déjà une maison très riche à l'époque. Elle est plus haute que les autres qui lui sont contemporaines. Et donc la maison en réalité avait une voisine qui a disparu. Et donc on a tout refait au milieu du XXe siècle pour pouvoir la mettre en valeur en fait. Donc on a cassé la maison qui était à côté pour pouvoir mettre la maison de Bruegel en valeur.
Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans cette maison?
Alors, on voudrait bien en refaire un musée Bruegel. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Parce que le problème, c'est qu'il y a aussi questionnement sur la propriété de la maison. Et on ne sait pas très bien quel ministre de la Culture doit s'en occuper. C'est une histoire belge.
Mr. Bruegel, kom maar binnen in de lichten van de kroeg. Laat de wereld maar vergelen. Zet uw haaien bij de ploeg.
In de maand. En fait, se trouvait là le théâtre de Thône, qui est le théâtre de marionnettes bruxellois par excellence, hein, Thône. Aujourd'hui, on est à Thône 8. Et donc, Thône était là entre les deux guerres. Avant la Première Guerre mondiale, il était dans la petite rue au-dessus où il y avait les escaliers là-bas, rue de la Samaritaine. Et donc après la guerre, il a dû aller alors près de la Grand Place où il se trouve aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Parce que tout l'humour du théâtre de Thône, c'est l'humour de la peinture de Bruegel. Et c'est en ça qu'on montre que Bruegel est vraiment un peintre bruxellois, plus qu'anversois, pour ne pas retourner la hallebarde dans la plaie. Et c'est cet esprit tout à fait particulier d'humour froid et d'autodérision qui est typique de ce quartier et que Bruegel avait déjà peint, en fait, dans sa manière de transposer à la fois les éléments sacrés, comme dans la chute d'Icare, hein, où finalement c'est le paysan et le berger qui sont les plus importants, comme dans ses choix autour des fêtes populaires, hein, les kermesses, la grande bouffe, les rigolades, les danses, etc. C'est ce que le bruxellois retient de Bruegel. Hein. C'est ce que nous, on apprend à l'école. C'est la fête bruegelienne. D'ailleurs, on appelle ça, quand on fait un repas de famille, entre nous, on dit une fête bruegelienne. Ça veut dire qu'on sait que chacun amène à manger, qu'il va y avoir une table comme ça, et ça a un sens, quoi. Ce mot a un sens. Ça, et ce n'est pas toujours en rapport avec la peinture, en fait. C'est un mode de vie. Toutes les aventures de Kéké Flup se passent quasiment, enfin, il y en a quelques-unes ailleurs, mais pour l'essentiel, se passe ici, dans le quartier des Morolles. Et lorsque on analyse le comique de situation des aventures de Kéké Flup, on est encore une fois dans le comique que Bruegel insère dans ses tableaux. Tout l'esprit bruegelien bruxellois est dans ce bas-relief des années 30. Il est inauguré en 1933 par le bourgmestre, donc le maire de Bruxelles. Hein. Et en réalité, à un moment où la Belgique se couvre de monuments aux morts, eh bien ici, on a fait un monument aux vivants, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas morts pendant la guerre. Et dessus, ce sont tous des acteurs et des chanteurs très populaires bruxellois, pas connus à l'étranger, bruxellois, très connus dans le folklore de l'époque, qui sont représentés, donc faisant une fête bruegelienne. Voilà, avec les grandes chopes de bière, la danse. Ça ressemble à la manière de danser qu'on peut voir, par exemple, dans la danse de la mariée. Et vous en avez une là, la première.
C'est la danse de la mariée.
Alors c'est Lazou, hein, qui a réalisé ça. Ça vient d'être fait. Vous êtes les premiers visiteurs étrangers à qui on la montre. Et donc on a vraiment une réinterprétation du tableau de Bruegel dans une version évidemment hip-hop. Voilà. Il y aura une dizaine d'œuvres comme celle-là réparties dans la ville, dans les lieux où Bruegel a habité, vécu ou travaillé. On arrive dans des maisons que Bruegel a connues d'abord. Donc toutes les maisons ici à gauche sont des maisons que Bruegel a dû fréquenter et c'était déjà des tavernes. Donc il est fort probable qu'il est venu boire ici de sa gueuse ou sa crique. L'histoire ne dit pas ce qu'il préférait des deux. Toutes ces maisons-ci, Bruegel les a connues. C'était déjà des tavernes. L'architecture est typique des tavernes de l'époque. Elles sont presque sorties d'un tableau de Bruegel, en fait. Comme la bière bruxelloise est la même qu'à l'époque, puisqu'on fabrique toujours la bière de la même façon, c'est pour ça que la bière bruxelloise est devenue unique au monde, par fermentation spontanée, et bien ça veut dire qu'on peut boire ici, au même endroit, la même bière que Bruegel. C'est extraordinaire. Ça. Et boire un verre là, c'est comme si on rentrait dans un tableau de Bruegel. Donc les fontaines de la ville sont surmontées de personnages qui sont tous issus de personnages des tableaux de Bruegel. Et donc il y a les aveugles, il y a la mariée, la danse de la mariée, etc. Et donc il y en a comme ça partout dans la vieille ville. On les appelle les fontaines de Bruegel. Donc vous en avez une ici tout au bout, au bas du Sablon, à la rue de Relebeek. Vous en avez une près de la Grand Place, vous en avez une au Béguinage, il y en a partout dans la ville. Voilà, ici on est au cœur de la Marolle. C'est ici que tous les matins a lieu le vieux marché, le marché aux puces. C'est ici qu'Hergé venait brocanter pour chercher les objets qui peuplent bizarres, qui peuplent ces bandes dessinées. C'est vraiment le lieu le plus populaire de Bruxelles. Et donc tous les matins c'est rempli, à Bruxelles on dit rempli de brolles. Ça veut dire de trucs qu'on vend mais qui n'ont pas de valeur. Et à midi, ils sont obligés de replier. Mais ça reste toute la journée un lieu très très populaire. Et alors le 20 juillet, qui est la veille de notre fête nationale, il y a ici un bal populaire. Et chose incroyable pour la monarchie républicaine française, la famille royale vient danser ici sur la place, au milieu des gens.
Onder tjetere van jukebox eens gaan maar. Meester Bruegel, kom maar binnen in de lichten van de kroeg. Laat de blinden maar verzapen. Zet u aan je baarden.
Sur le chemin qui mène le promeneur sur les traces du peintre Peter Bruegel se trouve le château de Gasbeek, au cœur de la campagne flamande, à quelques kilomètres au sud-ouest de Bruxelles. Forteresse médiévale, cet impressionnant château a été plusieurs fois démoli, reconstruit, restauré. Il a connu les affres de l'histoire, jusqu'à devenir un symbole architectural du romantisme, toujours hanté par le fantôme de son célèbre propriétaire du XVIe siècle, du temps de Bruegel donc, le fameux comte d'Egmont, qui a connu une fin funeste. Il sera décapité sur la Grand Place de Bruxelles en 1568. Aujourd'hui, la visite de ce lieu est fascinante. Chaque salle regorge de peintures anciennes, d'orfèvreries, de tapisseries, de meubles historiques. La marquise Marie Arconati Visconti en fait au XIXe siècle une demeure luxueuse dans un style néo-renaissance. Elle fait d'ailleurs appel à un contemporain de Viollet-le-Duc, du nom de Charles Albert, pour restaurer l'édifice. Il s'emploie, avec imagination, à reconstituer la Renaissance et le Moyen-Âge. Mais il ne s'interdit pas d'ajouter une ou deux tours. L'éclectisme triomphe à l'extérieur et à l'intérieur, et la décoration mime l'ancien. Luc Van Acker, que j'ai rencontré au domaine, est directeur du château. Il est passionné d'art ancien et d'art contemporain, deux mondes qu'il souhaite relier, car il déteste l'idée que son château soit réduit à un monument historique sans vie. Il veut y faire entrer les artistes d'aujourd'hui pour questionner. C'est sa mission, son combat même. Pour l'année Bruegel, que l'on célèbre, il organise actuellement une grande exposition qui s'appelle « La fête des fous, Bruegel redécouvert », qui rassemble une grande variété d'artistes modernes et contemporains, les héritiers de Bruegel en quelque sorte.
Pour cette exposition, on s'est demandé quel est le rôle que Bruegel peut encore jouer aujourd'hui pour des artistes de notre époque. Donc c'est plutôt une réflexion sur l'influence de Bruegel. C'est un peu comme dans la philosophie de Michel Foucault, n'est-ce pas? Le château est comme une hétérotopie, où le monde vrai, le monde réel, est complètement à l'écart et on l'oublie. Dès qu'on entre ici, il y a d'autres règles, le temps coule d'une manière différente et on oublie pendant quelque temps le monde réel qu'on laisse derrière nous.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Peter Bruegel a été oublié pendant très longtemps et n'a été redécouvert qu'à la fin du 19e siècle, et grâce notamment à une grande exposition qui a été organisée à Bruges au tout début du 20e siècle.
Il y a Baudelaire, par exemple, qui dit « Tout le monde connaît les peintures de Bruegel l'Ancien ». Or, je pense que c'est une exagération. Peut-être qu'avec tout le monde, il voulait dire les gens qui peuplaient les salons de Paris, mais puisque la grande partie des œuvres, des chefs-d'œuvre de Bruegel se trouve à Vienne. Mais par contre, on connaissait les gravures qui étaient éparpillées un peu partout en Europe. Tout à coup, il y a des peintres flamands qui vont de nouveau exécuter des œuvres dans le style des primitifs flamands du 15e siècle. Et puisqu'on ne connaissait pas très bien Bruegel, on le rangeait dans le petit casier des primitifs. Hein. En 1902, il y avait une très grande exposition, très importante à Bruges, les primitifs flamands, avec 400 œuvres. Et pour toute une génération d'artistes, c'était bouleversant. Et là, il y avait une salle Bruegel. Quoiqu'il était 16e siècle, et donc il ne faisait pas officiellement partie des primitifs flamands, on pensait qu'il était un des derniers de cette grande tradition. Donc là, à gauche, la fameuse affiche de cette exposition dont je viens de parler. Et à cette époque-là, on parlait français en Flandre. Hein. On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'était avant la Grande Guerre. La bourgeoisie flamande était francophone. Ça n'a changé qu'après 14-18, parce que beaucoup de militaires flamands ont été tués dans cette guerre, justement parce que les commandants et les officiers ne parlaient pas le néerlandais et on ne comprenait pas ce qu'ils disaient.
L'exposition de Gazbeck vise à retracer la redécouverte incroyable de Bruegel et surtout l'importance de son imagerie et de son esprit. En effet, Bruegel a joué un rôle dans la constitution d'une identité nationale après la Première Guerre mondiale. Plusieurs œuvres d'artistes de cette époque en témoignent.
Et alors il y a eu ce réveil politique. Dans ce discours-là, Bruegel a joué un rôle très très important parce qu'il a peint des petits gens, n'est-ce pas? Il n'a pas comme Rubens ou Van Dyck peint les aristocrates ou les seigneurs tout en soi, mais des paysans, des gens aveugles. Et il n'a jamais peint aucun personnage beau. Et dans ce monde-là, une jeune génération flamande s'est reconnue et ils ont pris Bruegel comme icône de leur propre identité. Donc c'est très important de savoir ça.
À tel point qu'un hommage officiel a été rendu en 1920 à Bruxelles avec l'un de ses plus dignes héritiers, le peintre James Ensor.
Et la famille royale était présente, bien entendu, mais aussi un peintre très, très important, James Ensor. On va le rencontrer plus tard, qui lui a fait le discours et qui a dit « Pour nous, Peter Bruegel, c'est le prince, c'est le roi, c'est le plus grand peintre flamand qu'on puisse imaginer. » Donc là, on se rendait déjà compte que Bruegel, c'était une sorte de génie hors catégorie.
Particulièrement bien construite, l'exposition réunit de grands peintres flamands comme Gustav von de Voestin, Jean Brusselmans, Constant Permeke, aux côtés d'Odo Dix, de Georges Gross, de James Ensor ou encore de Valerius Sadeler.
Je commence ici à gauche, on a Gustav van de Woesten qui va peindre des paysans, des gens, des villages qui entouraient la ville de Gand où il habitait. Et à un certain moment, il a décidé de quitter Gand pour aller vivre dans un de ces petits villages parce qu'il pensait que là, c'était vraiment la vie authentique, tandis que les villes, c'était artificiel, enfin, vous connaissez tout ça. Hein. Les deux grands, le sombre et l'ensoleillé, ce sont deux Permeke. Permeke est un artiste assez connu entre les deux guerres, qui a très très souvent pris ce thème du grand paysage dans lequel le personnage est très très petit, un peu comme chez Bruegel, n'est-ce pas? On aperçoit à peine le paysan et son épouse. Ça devient quelque chose de cosmique, hein, ce grand soleil, un peu comme chez Van Gogh, qui domine tout, et l'homme qui est minuscule vis-à-vis du cosmos. Donc là, les paysages enneigés, dont on pourrait prétendre que Bruegel en a été l'inventeur, nous reviennent au début du XXe siècle, Et c'est surtout les deux très grandes œuvres de Valerius de Sadeler, qui était un contemporain de Permeke. Et c'était en fait sa grande spécialité. Vous avez peut-être vu l'exposition de Fernand Knopf à Paris. Donc lui, il était fasciné par les villes mortes, les villes où il n'y a jamais personne. On peut dire qu'ici, on voit le pendant, mais avec des villages flamands, complètement enneigés, couverts d'une couche épaisse de neige, où il n'y a aussi personne. C'est comme des villages mortes qui forment le pendant des villes mortes de Rodenbach et de Fernand Knopf.
Le mérite de l'exposition est donc à la fois de permettre une visite du château et la découverte de peintres mal connus du début du XXe siècle, jusqu'à l'audace d'installer plusieurs grands noms de l'art contemporain dans le parcours historique de l'exposition. Tous ont un jour réfléchi sur l'esprit bruegelien ou sur l'art d'exploiter inconsciemment cet esprit. Car Bruegel était comme nous aujourd'hui, il se questionnait sur l'homme et le monde. Il observe la religion, le pouvoir, les pauvres, les mendiants, les vices et les vertus, l'excès et la folie, le rire et le burlesque, alors que les guerres faisaient rage en son temps. Il est un des peintres les plus malicieux qui a su prendre du recul sur les événements et les mœurs qui faisaient alors le XVIe siècle. Ces mêmes questionnements, nous les posons toujours aujourd'hui. La fête des fous, Bruegel redécouvert, est à voir jusqu'au 28 juillet, une escapade flamande à 10 km de Bruxelles, au château de Gazebec, pour mieux comprendre l'héritage du peintre des paysans, comme il fut appelé, dans la Belgique contemporaine. Et pour continuer l'escapade et découvrir au plus près la campagne de Bruegel, il vous faudra aller marcher sur un parcours d'art contemporain qui a installé des œuvres d'artistes en différents endroits du paysage. Le regard de Bruegel, reconstruction du paysage, est un sentier artistique autour des villages de Sint-Anna-Ped et Sint-Gertrud-Ped, dont Bruegel a peint pour le premier la chapelle et pour le second le moulin. 7 km au cœur du Pajottenland du maître flamand, là où il se mêlait aux paysans pour assister aux kermesses. Accessible jusqu'au 30 novembre, vous pourrez en découvrir plus sur les sites internet regardebruegel.be et Visite Flanders. Notre promenade sur les pas de Bruegel s'arrête ici. À vous de la continuer, à vous de la découvrir et d'aller en savoir encore plus sur ce maître du XVIe siècle qui reste encore, par bien des aspects, énigmatique.